question pratique à la dame de l'ADEME et à vous qui êtes suffisamment renseignés. De ce que je viens entendre dire, il faut un filtre, effectivement, comme un filtre passe-partout pour, vous savez, comme on dit, pour Internet et compagnie, du temps où on avait la DSL, la pose d'un filtre sur le Linky interdit à ces ondes de revenir dans le bâtiment, parce qu'en fait, j'ai vu qu'on était pris dans une cage de Faraday. Mais bref, comment se fait-il, si le fait est reconnu, qu'on n'entende pas des boîtes et des industriels avec leur publicité poser un filtre sur votre installation électrique? Voici ma question.
Alors, on va prendre deux trois questions à la suite. Hein, on les note, et vous les notez, puis on rebondira dessus. Alors.
Bonsoir, ben moi je vais apporter une réponse si vous voulez bien. Il existe déjà des filtres sur le marché, tout à fait, qui sont à la vente aujourd'hui. Bon, il n'y a pas une grosse publicité qui est faite dessus parce que justement, vu le tarif de ces produits, puis Inédis n'est pas non plus enfin, à installer partout, mais c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes électrosensibles qui se renseignent là-dessus. Et il existe sur le marché déjà des filtres dont certains ont été vérifiés sur le terrain, etc., qui sont efficaces. Voilà.
Mais merci.
C'est absolument anormal que ce soit pour particulier de payer. Le seul dont on peut parler aujourd'hui, dont on est sûr, par rapport aux fournisseurs, il est de l'ordre, avec l'installation, on en a parlé ce week-end avec un électricien, ça représente un budget de 900 euros quand même. 900 euros. Le filtre plus la bourse.
Elle va l'élargir.
Alors, on considère que la réponse est apportée à la question qui avait été posée.
Absolument.
Très bien.
Bonjour, je voudrais savoir, moi, sur les compteurs JP et Tempo, si ça marcherait comme ça marche à l'heure actuelle. Le JP, tout le monde sait, c'est des heures creuses et le Tempo, c'est des jours blancs, rouge et bleu. Alors, pour savoir s'ils garderaient les mêmes contrats.
Ils disent oui, normalement, mais en même temps, les tarifs réglementés vont être supprimés en France. Parce que l'Europe exige qu'il y ait la concurrence, à cause de la concurrence, on les détaille, je ne sais pas exactement. Donc ça risque soit de disparaître, soit de continuer. À l'heure actuelle, moi, je ne peux pas répondre.
Madame Duval.
Sur les offres, j'en connais pas plus que vous, hein, je ne travaille pas ces énergéticien. Pour autant, on en est aux prémices aujourd'hui de ces compteurs. Donc ce que l'on voit à l'ADEME, c'est qu'il va y avoir une évolution des offres qui va se faire dans les prochaines années. Des offres qui seront beaucoup plus précises sur vos modes de consommation et sur les modalités aussi de consommation. Vous parliez tout à l'heure, madame, de l'utilisation de la machine à laver pour faire tourner de nuit. Il va y avoir effectivement des offres vraiment différentes. Ce sera beaucoup plus différencié, ça ira au-delà de l'heure creuse, heure pleine. Et il y a vraiment tout un panel d'offres qui risque de s'ouvrir demain à la concurrence, dont aujourd'hui on n'a pas soupçon. L'autre chose, c'est que aussi y avoir des différences de puissance. Aujourd'hui, quand on a un compteur, au départ, on vous dit c'est tant d'ampères et vous les gardez 10 ans, 20 ans et sans que ça change. Effectivement, dès lors que vous aurez une consommation plus précise, il y aura probablement un ajustement plus précis de votre tarif d'abonnement par rapport à votre consommation électrique.
Alors, si j'ai bien compris, ça sera comme les offres téléphoniques. C'est-à-dire que vous recevrez un petit coup de fil tous les deux mois pour vous dire qu'on a encore une offre encore plus merveilleuse que la précédente. Mais ça, soyons assurés que des offres, on va en avoir beaucoup. Alors, il y a un monsieur là-bas, après il y a une dame.
Alors, Bon, une question qui me semble importante, bon, mis à part les effets nocifs que peuvent apporter ces compteurs, au niveau de l'installation, je pense qu'il serait normal qu'à partir du moment où on nous installe un appareil chez nous, il y ait une assurance derrière qui nous assure des problèmes qui pourraient se poser par la suite. Parce que quand on fait appel à un artisan, pour, par exemple, pour nous faire installer un lave-linge, un lave-vaisselle, etc., s'il y a un problème avec l'appareil, c'est l'artisan qui est responsable, d'accord ? Donc, a priori, on nous installe des compteurs dans nos maisons, il y a des problèmes par la suite, et on n'est pas assuré. C'est-à-dire qu'en fait, Enedis nous oblige pratiquement à nous mettre un nouvel appareil, et ils n'assurent pas la pose. Enfin, ça me paraît complètement aberrant, cette façon de faire. Et il y a eu des tas de problèmes qui ont d'ailleurs ressurgi à travers justement Que choisir, etc., où des gens ont des problèmes et Enedis en fait se lavent les mains par rapport à tous ces problèmes, que ce soit les appareils électroniques. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, tous les appareils électroménagers sont gérés par des cartes électroniques. Les ordinateurs, pareil. Il peut se passer n'importe quoi, parce que justement, comme l'Anki modifie les fréquences sur le réseau, et que justement les cartes électroniques sont très sensibles à ces modifications de fréquences, il peut y avoir des tas de problèmes. Alors moi, la question que je pose tout simplement, c'est que on vient chez moi, on m'oblige à changer mon compteur, si j'arrête d'ailleurs, bon, après je verrai si je suis OK ou pas, mais il n'y a pas de service après-vente, quoi. Enfin, c'est scandaleux. C'est scandaleux.
Il y a une petite feuille qui circule pour celles et ceux qui veulent laisser une adresse électronique, par exemple. Nous ferons passer le compte-rendu de cette réunion à toutes celles et ceux qui le souhaiteront. Et sur la question qui vient d'être posée, ce sont l'ensemble de ces questions que nous allons aussi faire au-delà des réponses qui sont apportées, comme la réponse a été apportée tout à l'heure sur la question du filtre. Hein, la réponse n'était pas terminée. C'était « ça coûte 900 euros », etc., etc. Donc toutes ces questions seront des questions que nous ferons remonter. Alors une autre question, on a compris la question de l'assurance. Une autre question, on y reviendra.
Oui, alors moi j'ai un compteur, il est bête, mais il est discipliné. Je veux dire par là que ce compteur, c'est un ancien électromagnétique que je vais garder jusqu'en 2021 minimum, enfin, peut-être maximum, mais il va rester en 2021, puisqu'il est à l'intérieur de mon appartement. Ceci dit, j'ai fait installer des panneaux photovoltaïques sur le toit de ma maison, pour de l'autoconsommation. Sans aide, d'ailleurs. Il n'y a aucune aide sur les panneaux photovoltaïques en autoconsommation, ce qui peut être un petit peu dommage, mais enfin, ça, c'est un autre problème. Les jours, comme la semaine dernière, mon compteur bête, mais il est discipliné, il tourne à l'envers, parce qu'il renvoie de l'électricité sur le circuit, en toute légalité. Et EDF, j'ai une alerte là, ils s'en réjouissent, parce qu'elle ne leur coûte rien, ou très peu. Qu'en sera-t-il avec le Linky ? Parce qu'il va être intelligent, mais est-ce qu'il va pas bloquer mon électricité que je renvoie ?
On tente une réponse sur les deux questions. La question alors de l'assurance, c'est-à-dire si l'installation, la pose du compteur Linky entraîne sur mon installation ou entraîne sur un appareil de ma maison un problème, qui paie ? Hein, voilà, je pense que c'est celui qui a les désagréments qui les assume. Je crois que c'est ça. Hein. J'ai cru lire ça. Alors, sauf expression contraire, voilà la réponse que je tente d'apporter. Et c'est effectivement totalement anormal. Alors, sur la question qui vient d'être posée, qui concerne en fait le fait de réinjecter de l'électricité produite. C'est une des raisons d'être, si j'ai bien compris, là aussi la documentation que j'ai pu consulter, c'est une des raisons d'être du compteur Linky, et c'est un argument qui est mis en avant pour dire il y aura de plus en plus de producteurs d'énergie autonomes qui auront à renvoyer de l'électricité. Alors aujourd'hui, le compteur, il tourne à l'envers. Demain, le compteur Linky, avec d'autres techniques, sans doute, mais saura compter ce qui est produit localement et renvoyé. Alors, sur les tarifs, c'est quelque chose qui est très évolutif. On voit bien que depuis quelques années, pour favoriser tel ou tel mode d'énergie renouvelable, eh bien, on met des prix attractifs. Je ne suis pas certain que ces choses-là vont perdurer dans le temps éternellement. Lorsqu'une technologie ensuite s'installe, eh bien, il n'y a pas forcément de raison particulière que de continuer éventuellement à l'accompagner par des aides particulières. Alors, Madame Duval, vous voulez dire quelque chose là-dessus? Non?
Ça fait pas partie de ça, le son.
Les assurances, en fait, c'est l'assurance d'habitation. Ouais.
Bah voyons.
Jusqu'à présent, tous les petits incidents, ils les nient systématiquement.
Voilà.
C'est affolant. Bon, alors qu'il y a. À chaque fois qu'il y a un incendie, tout de suite ils se précipitent. Ils essaient même quelquefois d'enlever les preuves qui pourraient rester encore. Et puis ils trouvent. Non, c'est un truc à côté qui a mis le feu, c'est pas ça. Donc on ne sait pas. Alors que certains ingénieurs ont déjà soulevé le problème, puisque dans ce compteur, il y a une partie où il y a le CPN à 80 numéros qui circule, à côté de circuits informatiques. Et que donc l'un peut déclarer de la chaleur sur l'autre et que pourrait peut-être être à l'origine de ces incendies. Naturellement, tout ça, c'est lié par Enedis. Bon, forcément. Donc, Enedis ne veut pas assurer. C'est pas compliqué. Alors, jusqu'à quand?
Alors, sur l'assurance, allez-y.
C'est depuis une compagnie, Lloyd Assurance, qui a lancé ça dans les années 2000, et ça a été repris à la suite par toutes les compagnies d'assurance françaises et même européennes. Tous les dommages liés aux ondes et aux champs électromagnétiques ne sont plus pris en compte, ne sont plus remboursés, que ce soit des dommages sur le mobilier, sur l'immobilier ou sur la santé. Voilà, que ce soit pour les particuliers, les sociétés, tout le monde. Alors, donc en fait, vers qui on se retourne, et ben vers le propriétaire du compteur.
On est bien d'accord sur cette question. On passe à une autre, monsieur, non? Ben c'est le monsieur qui avait le micro. C'était l'autre monsieur.
Oui, c'est pour les assurances aussi, parce que les assurances demandent en général d'habiter au moins 6 mois consécutifs dans son appartement. Et donc le compteur Linky pourra justifier que si vous n'habitez pas, par exemple, à temps complet pendant 6 mois, donc ils vous surfactureront votre assurance.
Alors, au fond là-bas, il y a un monsieur qui lève la main depuis longtemps. Allez, vas-y.
J'aimerais revenir sur la cybersécurité. Donc nous avons deux problèmes qui vont se poser. Le problème des hackers qui vont commencer à faire des jeux, à savoir combien de compteurs Linky je vais complètement dérégler, parce que tout système est piratable. Le compteur Linky est franchement pas très sécurisé. Et puis après, qu'en est-il, quand on a vu ce qui s'est passé cet été par rapport aux attaques informatiques, qu'en est-il du cyberterrorisme? Il y a des centrales nucléaires qui sont au bout de la chaîne. Il y a les hôpitaux, il y a les pompiers, il y a tout ça, et il y a nous. Donc moi je m'excuse, mais quand on nous bassine et qu'on nous met une société en état d'urgence et qu'on ne prend pas ça en compte, ça pose un gros problème. Merci.
Alors cette question m'intéresse particulièrement, c'est pas que je suis capable d'y répondre, mais c'est que je peux vraiment la relayer, celle-là. Parce que je fais partie d'une commission du numérique qui travaille sur la question de la cybersécurité. Donc voilà une question très précise que je vais m'empresser de relayer. Mais c'est une vraie question. Hein. J'ai eu l'occasion de visiter toutes les installations de lutte contre les cyberattaques. C'est un service qui comprend 80 ou 90 personnes sous l'autorité directe du Premier ministre et qui font tous les schémas possibles et imaginables sur ces questions-là. Je ne suis pas certain que la question de Linky ait déjà été posée à cette instance. Enfin voilà, en tout cas, moi je la relayerai. Monsieur.
Oui, bon, une question très pratique. C'est à vous, monsieur le député, que je m'adresse. Si je refuse, qu'est-ce qui se passe?
Vous n'appelez pas forcément le député.
Je précise.
Quelqu'un qui refuserait l'installation du compteur Linky s'exposerait à avoir un relevé payant. S'exposerait, ça veut dire que ça fait partie des choses qui sont en gestation. Et moi, les informations que j'ai, c'est que une prestation payante, mais pas qu'un peu, quoi. Pour l'instant, j'en suis là. Moi.
Attends, non, justement, à ce propos, en tant que député, vous pouvez poser des questions à l'Assemblée. Vous.
Oui.
Donc, si vous demandez qu'est-ce qui se passe, parce que rien n'est clair à ce niveau-là, qu'est-ce qui se passe, on n'aura une réponse officielle. C'est tout. Merci.
Alors, oui. Je prends l'engagement devant vous que cette question et d'autres avec fassent l'objet de ce que nous appelons une question écrite.
Oui, c'est bien.
C'est-à-dire que nous avons la possibilité d'interpeller un ministre à partir d'une question écrite. Et ils sont dans l'obligation de répondre à ces questions, même s'ils mettent pas mal de temps pour le faire entre nous. Et pour votre information, même il paraît qu'on embauche aujourd'hui des prestataires extérieurs privés pour répondre aux questions des députés parce qu'on n'a plus dans les ministères les ressources suffisantes pour pouvoir le faire. Alors, il y a une question. Allez-y.
Monsieur a posé la même question que je voulais vous poser, mais je voulais juste spécifier à la dame de l'ADEME que pour avoir une consommation intelligente et pas consommée, je débranche quoi, mes appareils. Vous pouvez essayer, vous allez voir, c'est très bien. Donc, ma position à la pose d'un compteur Linky chez moi n'est pas liée à un manque d'information ni à une quelconque crainte, mais c'est juste l'exercice de ma liberté à ne pas me faire imposer un truc, notamment par une boutique qui s'appelle EDF et qui est loin d'être un philanthrope. Voilà, c'est tout.
Bravo.
On reste là au fond et après on avancera.
Bonsoir, j'ai deux choses à dire et je vais essayer de tenir quand même en 3 minutes. La première, c'est que j'ai déjà fait la démarche d'envoyer une lettre recommandée à l'agence Enedis de Moulins 64 des Pêcheurs. Je me suis renseignée auprès de l'association Robin des Toits pour écrire cette lettre. J'ai fait mention d'une lettre qui a été écrite par la commission des finances de l'Assemblée nationale à Monsieur Hulot, ministre de l'Environnement, qui date du 29 mai 2017, si ma mémoire est bonne, et qui est spécifique que les particuliers n'ont pas l'obligation d'accepter, qu'ils peuvent refuser. Donc j'ai spécifié ça sur ma lettre, j'ai parlé de l'argument sanitaire parce que je suis concernée, mais il est évident que vous pouvez parler aussi d'autres arguments. Cela dit, faire une telle lettre, c'est pas simple. C'est bien de mettre un certain nombre de gens en copie. Donc, je suggère aux personnes responsables qui sont présentes d'éventuellement faire passer des modèles de rédaction. Ce qu'il y a de sûr, c'est qu'il faut l'envoyer à Enedis 64 rue des Pêcheurs à Moulins, puisqu'il est l'allié, et qu'il faut l'envoyer en lettre recommandée avec accusé de réception. Ça, c'est la première chose. J'ai pas de... Non, on n'aura pas de réponse.
Si.
La deuxième chose. Ah bon ? Ok. Il y aura une réponse, paraît-il. La deuxième chose, c'est qu'il faut protéger son compteur quand il est à l'extérieur. Il faut mettre un coffrage fermé à clé pour éviter tout risque, parce qu'ils ne peuvent pas faire une effraction. Ça, ils ne le feront pas. Par contre, n'importe quoi d'autre, même une chaîne avec un cadenas, ils peuvent le fractionner et la fracturer et ils s'en cachent pas. Excusez-moi, je termine. Prendre des photos, dit madame. D'accord. Et puis si vous êtes à l'intérieur, essayez de vous débrouiller pour qu'ils ne rentrent pas. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'en termes de sensibilité aux ondes, on a un véritable problème sanitaire. Et que je vous recommande la lecture d'un livre qui s'appelle Habitat en sous-France. C'est un jeu de mots, sous, S-O-U-S-France, par une dame qui s'appelle Geneviève et qui est membre de l'association Robin des Toits. Donc vous pouvez obtenir ce livre à l'association Robin des Toits, je l'ai là. Et je vais vous lire un tout petit extrait. Le quotidien des EHS, quand vous, donc EHS c'est électro-hypersensible. Quand vous découvrirez que vous aussi vous êtes touché, parce que ça va arriver très vite avec le WiMAX et même la 5G. Quand vous découvrirez que vous aussi vous êtes touché, voilà ce que vous allez vivre. Fini. Visites et relations, famille, amis, ils ont des émetteurs de niveau familial. Lieux interdits. Administration. Bureaux de poste, banque, assurance, commerce, magasin, lieux sanitaires, y compris Wi-Fi Hosto. Transport, sn.wifi.cf, ra.wifi.tp, avi.wifi.on. Hôtel, restaurant, lieux culturels, manifestations culturelles, des antennes partout.
Un petit point de conclusion.
Personnellement, à tout prix, je veux pas de CPL dans mon logement.
Alors, je relisais, la pose du compteur communicant est-elle obligatoire, hein, ça c'est des documents, Enedis disent oui, la pose du compteur communicant est obligatoire de par la loi, elle constitue, alors laissez-moi aller jusqu'au bout, hein, c'est pas ma prose à moi, elle constitue une obligation légale dont s'acquitte le distributeur, le compteur est mis à disposition du client et ne lui appartient pas. Les particuliers ne peuvent pas refuser le déploiement des compteurs. En cas d'obstruction persistante à son changement, le client pourra être soumis à un relevé spécial payant au moins une fois par mois. Et par an, pardon. Excusez-moi. Et je lis que les conséquences en cas d'obstruction persistante. L'obstruction au remplacement du compteur ancienne génération constitue par ailleurs à terme un manque à gagner certain pour le client pour au moins deux raisons principales. Le compteur d'électricité du logement devra également faire l'objet d'un relevé spécifique, c'est ce que je disais, et le remplacement du matériel actuel par des compteurs nouvelle génération permet normalement une baisse importante du coût de la consommation pour le client. Vous voyez que les arguments là c'est un petit peu faiblard. Donc, la question sera bien posée. On continue.
En ce qui concerne l'obligation du compteur, il faut savoir que Philippe Montlobeau, président du directoire EDF, a dit à l'Assemblée nationale devant les députés en février 2016, le compteur n'est pas obligatoire. Vous pouvez voir la vidéo sur Internet. En ce qui concerne les tarifs réglementés, ceux qui ont le JP continueront de l'avoir. Simplement, il n'y a pas de nouveau contrat signé. Merci.
Oui, bonsoir. En parlant de CPL, j'ai chez moi, pour pallier à la Wi-Fi, parce que vous savez que la Wi-Fi, le champ des ondes électromagnétiques, occupe tout l'espace dans une maison. Et donc moi j'ai donc un petit réseau informatique personnel et j'ai donc mis le CPL, ce qui me permet de ne pas manger trop d'ondes électromagnétiques. Voilà. Internet, c'est Internet pour les entreprises, ça.
Non, Internet.
Oui, c'est pour les entreprises. Oui, bon. Disons que j'ai un réseau CPL chez moi, dans les normes actuelles. Et si par exemple on met le CPL de d'Enedis par-dessus, est-ce que ça ne risque pas de perturber justement le réseau? Ce serait intéressant comme question à poser à Enedis. Je ne suis pas sûr qu'il soit compétent à ce sujet.
Mais Michel Lé.
Je vais essayer de vous répondre très rapidement. Ce fameux CPL d'abord que vous mettez pour remplacer le Wi-Fi est aussi nocif, sinon plus que le Wi-Fi, d'abord. Deuxièmement, ces fameux boîtiers à lesquels vous pouvez vous transmettre en utilisant votre ligne électrique, ce sont des petits boîtiers qui émettent des CPL. Pendant longtemps, Enedis s'est battu contre, EDF plutôt, ce n'est pas encore Enedis, il y a un moment, ils se sont battus contre, mais comme ils ne savaient pas, ils avaient demandé à tous les gens qui avaient ça de mettre un filtre, mais comme ils n'y sont pas arrivés, même EDF, à un moment, avait mis un bout de ligne des filtres pour essayer de filtrer. Mais comme ils ne sont pas arrivés à filtrer cette pollution, ben, ils ont abandonné, et puis disons qu'ils ont même convaincu de tourner la veste, puis là, ils ont trouvé avec l'ENI l'utilisation de ces CPL. Mais ces CPL, ce sont les mêmes, et ils sont extrêmement nocifs. Alors, je vais quand même préciser un petit truc aussi, puisque j'ai l'occasion. Les parents qui mettent des babyphones dans, dans les lits de leurs enfants, c'est aussi du CPL. Et alors là, ceux qui le mettent dans le lit de l'enfant, alors là, c'est qu'ils le mettent au moins, s'ils ne veulent pas s'en passer, qu'ils le mettent au moins à 2 mètres. 2 mètres ou même 3 si c'est possible, au moins. Bon. Donc, ces CPL, sont nocifs, personne ne veut le reconnaître, mais je vous ai expliqué, je vous ai dit tout à l'heure, ce que disait la CR. La Commission de régulation de l'énergie en 2011. Bon, voilà. Alors, oui, mais je ne sais pas si j'ai répondu à la question ou pas. Bon, ces CPL, je voulais en profiter pour dire que les CPL, voilà un document qui sont interdits dans les aéroports et dans toutes les bases de l'OTAN, dans toutes les bases militaires de l'OTAN. Voilà. On espère qu'ils sont interdits aussi dans les hôpitaux, mais ce n'est pas sûr, parce qu'il y a tout le matériel avec lequel on se soigne. Mais Enedis a déjà dit, oh, mais c'est parce que le matériel n'est pas au point, c'est à vous de le mettre au point. Non, mais c'est aberrant, quoi. Voilà.
Alors, la communication d'Enedis RDF ancien, c'était sur une journée, le compteur ne communique en CPL que pendant 0,1% du temps. Non, non.
Comme je vous ai dit tout à l'heure, il y a longtemps qu'il a été prouvé que ces CPL sont envoyés 24 heures sur 24. Et si vous allez voir le rapport Tricon, vous aurez même des photographies, des paquets d'ondes qui sont envoyés, car ce n'est pas envoyé totalement en continu. Mais vous avez à peu près 6 à 8, 8 ou 10 paquets d'ondes envoyés par minute. Ça fait 1 toutes les 18 secondes ou 10 secondes. Et qui sont des paquets d'ondes, je ne sais pas, c'est un autre terme, qui sont plus ou moins importants en fonction de l'enseignement qu'Enedis veut obtenir sur son réseau. Donc c'est 24 heures sur 24, je crois qu'Enedis ne le conteste plus. Ce qu'il y a sur ce document est sans doute un document ancien.
Alors, Michel, je ne sais pas si c'est du CPL, mais quand il est branché, hein, c'est... Allez, on continue. Non, c'était une blague, hein.
Oui, j'ai une question. Je suis un peu surpris, madame, que vous n'ayez pas abordé cette question. C'est la question des libertés publiques. Et je m'aperçois que votre agence n'a pas l'air de s'y intéresser beaucoup, après ce que vous nous avez dit, alors que manifestement vous êtes au courant de la question, forcément. Un directeur d'Enedis a déclaré que Enedis devait devenir une entreprise de big data. Une entreprise de big data, c'est une entreprise dont le but est de récolter des données personnelles et pour les revendre et en tirer un profit. Donc, on peut se demander si l'installation de ce compteur, après avoir entendu des arguments qui, évidemment, ne paraissent pas quand même très sérieux, et n'a pas pour but de justement pouvoir collecter ces données et en tirer un profit majeur. On sait les risques au regard de la protection de la vie privée, au regard d'ailleurs même des phénomènes politiques, de l'exploitation de ces données. L'exemple de Facebook est aujourd'hui particulièrement parlant. Alors c'est un peu la question aux députés que je pose. Est-ce que l'Assemblée nationale est sensibilisée à cette question des libertés publiques? ou est-ce qu'elle ne l'est pas? Est-ce que tout le monde s'en fiche et qu'on se dit après tout c'est pas grave, c'est quand les gens n'ont rien à se reprocher, ils ne risquent rien, ce qui n'est jamais vrai, et même si on n'a rien à se reprocher, on a quand même droit à son intimité et à ne pas être soumis au risque de l'exploitation par des tiers, on ne sait pas qui, on ne sait pas quand, on ne sait pas comment, des données personnelles, d'autant plus que si la CNIL a rendu une décision disant que ce serait très bien si l'Enedis s'engageait à ne pas utiliser les données personnelles, que si l'Enedis nous fait signer, enfin accepte de prendre en compte et de dire « je ne transmettrai pas vos données personnelles », on n'a aucun, pour être certain, moyen de contrôle. Si je veux contrôler si effectivement l'Enedis respecte l'engagement qu'il a appris de ne pas transmettre les données personnelles, comment faire? Alors je pourrais faire un référé, faire désigner un expert qui fera une expertise qui coûtera entre 50 et 100 000 euros. Parce qu'on sait le prix des expertises, on sait que c'est extraordinairement compliqué et on ne sait même pas si on pourra le faire. Donc on n'a aucun moyen de contrôle sur l'avenir de ces données, même si on le fait. Donc je pense que cette question devrait être véritablement soulevée, car si la question de la santé par des moyens techniques qu'on pourrait imaginer un jour ou l'autre, peut-être, peut-être pas. En tout cas, cette question pose une question politique profonde à long terme, extrêmement grave. Merci.
Réponse très courte, oui.
Plus récemment, Enedis ne parle même plus de compteur, mais il parle de capteur. Voilà. Capteur, ça veut tout dire. Et je ne vois pas comment il peut, d'un côté, dire qu'il va respecter les recommandations de la CNIL, et de l'autre, vouloir être un acteur du Big Data. Ça s'oppose totalement. Il faudra bien que d'un côté ou de l'autre, il mente.
Alors, moi, j'accorde beaucoup d'importance à la question qui vient d'être posée, à aller... Elle est essentielle, et dans de nombreux débats, cette question est une question qui revient, parce qu'on a beaucoup de questions sociétales qui finalement mettent en avant la question des libertés publiques, hein, qu'elles soient numériques ou autres, en fait, hein, parce que la société d'aujourd'hui communicante, comme le compteur, est une société qui forcément revisite un certain nombre de questions comme celle-ci. Donc il y a débat très souvent sur ces questions-là au niveau de l'Assemblée nationale, et à mon avis il va y avoir encore plus débat, parce que la question des données personnelles, par exemple, hein, est une question qui aujourd'hui est posée et qui doit s'inscrire aussi dans un projet de loi. Alors, c'est pas moi qui fixe l'ordre du jour de l'Assemblée nationale. Chacun l'a bien compris.
Votre avis là-dessus?
Oui, moi j'aurais une question par rapport à... Alors, si j'ai bien compris ce principe, les données vont être envoyées, enfin, récoltées sur un répartiteur électrique. Les répartiteurs, est-ce que ce sont ces gros grosses boîtes qu'on a un peu partout dans les campagnes et dans les villes? Conservateur, mais il va y avoir à un moment donné une émission de dons de genre téléphonique. Oui, et ces répartiteurs ou concentrateurs, où se situent-ils dans la ville, dans le village, dans la commune? Est-ce qu'ils sont tout en haut d'une antenne comme sont imposées les antennes téléphoniques?
Non, oui. Ils sont dans les
transports. Ou alors est-ce que c'est à hauteur d'homme, avec encore plus d'opposition?
Ça dépend, parce qu'il y en a qui sont... Non, maintenant, ils essayent de les mettre dans les transformateurs d'électricité. Voilà, les grosses boîtes que vous voyez, le plus proche, c'est les grands. Oui. Mais...
Non, parce qu'il faut une liaison...
Oui, mais il y en a qui ont été posés contre des murs, sur une maison, dans la rue. Maintenant, ils font un peu plus attention, mais il y en a un peu n'importe comment. Oui. Oui, c'est encore plus pire. C'est encore pire.
Eh bien, aujourd'hui, ils nous l'ont mis dans des propriétés privées sur un poteau.
Oui, on n'a peut-être pas suffisamment insisté là-dessus. Deux compteurs, on va jusqu'au concentrateur, par les CPL dans les fils. Et du concentrateur, on retourne chez Enedis par téléphonie mobile, par la GSM. Voilà.
Les émetteurs, les relais qui vont envoyer, ils sont à
hauteur d'un point. Oui. Non, ils ne sont pas. Ça pas. Dans certains endroits, ils ont essayé de mettre dans les clochers. Bon, maintenant ils ont renoncé. Maintenant, oui. Non, c'est pour que ça rayonne, c'est pourquoi. Oui, mais les concentrateurs ont des émetteurs pour émettre, et si vous les mettez dans un endroit où l'émetteur va être limité, enfin là, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'ils sont posés à divers endroits, mais je ne suis pas sûr.
C'est à l'été noté.
Bonsoir, moi je voulais simplement rajouter quelque chose concernant la santé et compléter ce qu'a dit la personne tout à l'heure qui est électro-hypersensible. La maison du handicap a reconnu la pathologie d'électro-hypersensibilité à une personne l'année dernière. Ça fait qu'on lui a accordé une pension parce qu'elle ne peut plus travailler.
Oh, ça fait
d'autre part, il y a un décret qui est applicable depuis 2017 et qui protège les salariés qui demandent aux employeurs de protéger leurs salariés à l'exposition des champs électromagnétiques dans les entreprises. Je voulais dire que j'avais noté que l'ADEME a indiqué l'augmentation de la consommation électrique équivalente à celle d'un réacteur nucléaire grâce ou à cause du Minky, ça dépend de quel côté on se pose.
Allez, on continue.
Et bonsoir. J'ai entendu que quand on refuse le Linky, je cherche d'où vient cet arsène, ça. Mais bon, quand on refuse le Linky, il faut payer pour le relever du compteur. Mais bon. J'ai aussi entendu que le Linky n'est pas obligatoire. Donc pourquoi je suis punie pour devoir payer pour faire relever mon compteur quand je peux transférer les chiffres de mon compteur par email vers Enedis au EDF? Pourquoi je suis punie que j'ai rien commis comme infraction qui est dans le code pénal? J'ai une question. On sait que les ordinateurs, l'email, tout ça, c'est hacké, piraté, comme qu'on appelle ça. Et est-on sûr que les Linky ne seront pas piratés, hackés ou quoi? Et comme que tout est enregistré, qu'est-ce que je consomme? Quand? Pendant la nuit, pendant la journée, quand je fais la cuisine, et aussi quand je ne suis pas chez moi. Et c'est comment on fait que ça n'arrive pas? Et comment on fait que ça n'arrive pas chez les cambrioleurs? Merci de me répondre.
Allez, je pense que. Très sincèrement, je pense que c'est le cœur de questions qui ont déjà été posées et où on a les uns et les autres tenté d'apporter des réponses ou tout au moins des arguments, comme vous venez de donner un argument très logique. Hein, pourquoi je paierais alors que je peux adresser moi-même? Donc ça, c'est un rapport de force qui est en train de se mettre en place de façon à avoir une pression douce, lente, mais continue pour pouvoir passer aux choses sérieuses. Alors, on continue.
Oui, j'ai une question aussi concernant les données personnelles, parce que j'ai été surpris d'ailleurs déjà où cela peut se nicher. J'ai un contrôle technique de mon automobile, comme certainement beaucoup d'entre vous. J'ai été surpris d'avoir trois courriers de commerciaux pour m'inviter à me rendre un contrôle technique dans différentes entreprises avec mon numéro de voiture, mon adresse, bien sûr, et la couleur de mon véhicule. Donc, je me demande, que ça vient certainement du service de la préfecture des cartes grises, alors est-ce qu'ils diffusent gratuitement ces données, ou alors je n'ose pas espérer que c'est de la corruption fonctionnelle.
Alors pour répondre à...
On va protéger les fonctionnaires, c'est pas de la corruption fonctionnelle.
Je réponds, quand vous remplissez votre demande de la carte grise, il faut tout lire, parce qu'il y a une petite case marquée, est-ce que j'autorisais la préfecture à ce que ces données soient communiquées ? Il faut tout lire maintenant à des partenaires commerciaux.
Alors, nous sommes en permanence confrontés à ça. Où, on doit répondre si on veut laisser nos coordonnées, etc., etc., etc. Donc ça, c'est devenu véritablement monnaie courante. Donc le pire, c'est que si vous ne cochez pas la case, vous êtes d'accord. Donc là, ça passe parfois inaperçu. Mais c'est le garage. Non, non, mais ça pose la question des données personnelles qui était posée tout à l'heure. Hein. Voilà. Alors, on continue. Je regarde, je ne sais plus quelle heure il est, mais il doit être 9h. Donc il nous reste un quart d'heure. Alors, si vous voulez, je dis ça parce que les réunions, il faut les commencer, il faut savoir les terminer, parce que sinon après les gens ils viennent plus. Quand on dit qu'on va finir à 21h, on finit à 21h15. Donc ça fonctionne bien, personne n'a mangé avant de partir. Ça tombe bien, on n'a pas prévu un coup à boire. Donc voilà, je le dis maintenant parce que si je l'avais dit plus tôt. Madame.
Donc oui, moi je voudrais dire aussi que la pose des compteurs Linky, c'est quand même un non-sens écologique, puisqu'on va mettre au rebut 35 millions de compteurs Linky, normaux, qui vont bien. On peut tout en plus passer à 80 millions si on rajoute à ça les compteurs de gaz et les compteurs eau. Donc quand on parle d'écologie, je pense que là on a quand même un petit problème. Et vraiment cette question de non-sens écologique, moi ça me pose problème. Surtout que la durée de vie aussi des nouveaux compteurs, c'est pas la même. Les anciens compteurs, on était sur du 50-60 ans contre 15 ans pour les Linky, sachant que pour certains constructeurs, ils annoncent même du 10 ans. Et j'ai pas fini avec, parce que j'ai pas encore mon groupe à 3 minutes non plus. Et en plus, le recyclage n'est pas prévu pour les compteurs. Donc voilà, moi ça me pose quand même problème. Et puis une autre chose, on parle aussi, on demande au gouvernement de faire quelque chose. Je suis tout à fait d'accord, mais je pense aussi qu'on a des élus locaux qu'on a élus aussi pour nous protéger. Et je pense qu'ils ont aussi un rôle à jouer là-dessus. Voilà.
Sur le recyclage, il me semble qu'il existe une filière de recyclage. Ben voilà. Après, comment ça fonctionne, il me semble, parce que quand j'étais au département, quand j'avais des responsabilités au département, on avait tenté d'avoir une usine de recyclage, on avait essayé, avec environnement recycling, on avait essayé de trouver quelque chose pour... On continue.
Oui, juste pour dire que ma longueur d'onde, c'est la commune, c'est la Comcom. C'est-à-dire qu'on peut à notre niveau agir localement.
Un peu plus loin le micro, Michel.
Oui, on peut agir localement et se saisir aussi, comme on l'a fait à Saint-Menoux, à Autry, par exemple, de notre pouvoir de monter un comité consultatif auprès du maire. Et je pense que ma longueur d'onde, c'est sans doute la vôtre aussi, c'est la commune, la Comcom. Et c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut aussi agir, bien qu'au niveau du député que
que vous êtes, il y a certainement aussi une action à faire. Voilà un autre niveau politique, et je pense qu'il faut, par rapport à un monopole que j'appellerais radical, faire feu de tout bois et ne pas attendre qu'on soit envahi par ce compteur intelligent, entre guillemets.
Alors, je profite de ce que dit Michel Proton pour justifier aussi une réunion comme celle-ci. Parce qu'il y a une grande frustration pour nos concitoyens de ne pas exprimer, de ne pas avoir de lieu pour dire « voilà ce que je pense, voilà ce que j'ai envie de dire ». Donc, on parle toujours de l'éloignement des gens par rapport à la chose publique. Eh bien, ces réunions, elles sont aussi... elles trouvent du sens dans la possibilité de donner à toutes celles et ceux qui ont envie de dire quelque chose, mais qui n'ont pas la possibilité de pouvoir le faire. Parenthèse fermée, agissons local aussi.
Voilà.
Ensuite.
Oui, bonsoir. Je voudrais simplement donner une indication. Je rentre de Lorraine où ma fille habite dans un immeuble où elle est en location. Il se trouve que tous les compteurs Linky ont été installés dans une cave sous un des appartements, tous rassemblés au même endroit. Donc je ne sais pas si vous êtes nombreux à habiter en appartement en location, mais en fait c'est le bailleur qui décide de l'endroit où on doit installer les Linky. Il se trouve que l'appartement qui est juste au-dessus a donc à peu près 8 compteurs Linky sous ses pieds. Non, en tant que locataire, on peut le refuser, mais beaucoup ignorent qu'on peut le refuser et ne l'ont pas fait. Voilà.
Alors.
Bonsoir. Moi, je suis médecin et je m'intéresse évidemment d'abord aux conséquences éventuelles sanitaires. On a des choses palpables avant de lancer des hypothèses sur cette technologie. Nous, en médecine, on utilise déjà les choses invisibles, impalpables. Elles sont rudement encadrées, rudement. La curithérapie, la gamma-thérapie, la radiothérapie pour le traitement des cancers, des Hodgkin. Oui, oui, quand même. Hein? Et souvent, ça se passe dans des grands centres médicaux, des CHU, où les structures sont
plombées,
protégées, blindées. Et il y a toujours à côté, d'ailleurs, du médecin, un physicien. On m'a appris ça. Il y a toujours un physicien de service qui surveille en permanence tout ce qu'il a à surveiller parallèlement à l'action des médecins, qui surveille le risque d'irradiation, de bêtises de maladies iatrogènes, comme on dit, provoquées par l'homme. Moi, je constate, je voudrais non pas élever le débat, c'est pas ma prétention, mais monter encore un cran au-dessus. Souvenez-vous quand même, l'Europe et la France, 10% des Français possèdent les instruments et la richesse du pays. Nous sommes dans les 90. Le capitalisme, car c'est lui, ne se gêne pas d'employer tous les moyens pour parvenir à ses fins. Un jour, il va mourir, mais avant de mourir, la bête va relever la tête. Et regardez ce qu'on a fait des océans, regardez ce que l'on fait des animaux, des biotopes, regardez ce que l'on fait de l'environnement des hommes. Hein? Moi, je lance un cri désespéré. Mais vous n'aurez pas la solution si ces messieurs, 10%, ont décidé de se faire du pognon sur nos côtes. Voilà. Merci.
Madame, elle certifie vraiment.
après un tel intervenant, je vais rester très très modeste, mais je soutiens de tout cœur, parce que je crois que là est l'essence de tous les débats maintenant. Et on sait tous qu'il ne se passe pas une semaine sans que des rapports scientifiques énormes nous annoncent le iota visible des catastrophes qui vont venir. Ça, c'est très important à retenir. Et je pense que tout le débat, tout ce qui a été dit aujourd'hui au sujet en particulier de l'impact de Linky sur les impacts potentiels, hein, je souligne bien ça, de Linky sur la santé, fait partie de tout ça. Alors, je vais ramener deux questions rapides à des choses beaucoup plus terre-à-terre. Il semblerait que Linky aurait été développé pour faire de la maîtrise d'énergie. Je pense que c'est là le but principal. Donc, deux questions. A-t-on un retour d'expérience significatif de la phase d'essai qui a eu lieu à Lyon et sur d'autres villes en termes d'efficacité et de sobriété? Parce que le terme sobriété, en fin de compte, je ne l'ai pas du tout entendu, ici comme dans beaucoup d'autres débats. Deuxième question. Puisqu'on sait que 50% de l'énergie est consommée pour chauffer des bâtiments, la deuxième question est la suivante. Combien d'équivalents habitation, et là je me tourne un peu vers l'ADEME, auraient pu voir leur niveau d'isolation, donc réduction de consommation d'énergie, amélioré si tout l'argent Linky, depuis les premières études jusqu'à l'installation des 35 millions de compteurs, avait été entièrement investi dans ce domaine? Merci.
Que c'était 5 à 6 milliards d'euros. Donc, on divise par 20 à 30 000 euros et on obtient la réponse à... Mais alors, peut-être que Madame Duval, est-ce que vous voulez dire un mot là-dessus ?
Oui, sur la L2, effectivement, il y a une...
Ça,
je dis rapidement, mais qui a été financée dans le cadre de d'avenir au Smart Electric Lyon. Les retours font qu'il y a à peu près une diminution des consommations de l'ordre de 10%. Mais surtout, ce qui ressortait de l'étude, c'est surtout le volet acculturation vis-à-vis de l'utilisation de l'énergie sur la maîtrise de l'énergie, une meilleure acculturation. Ce compteur apportait ce genre de réponse. Après, sur la question du parc de logement, j'aurais envie de vous retourner la question. En tout cas, à l'agence de l'environnement, on n'a pas d'aide à la pierre, j'allais dire, sur les investissements de rénovation. Nous, on accompagne plutôt toutes les phases d'ingénierie. Et jusqu'à présent, on n'a pas d'aide à la pierre. Donc, ce n'est pas l'ADEME qui finance les programmes de rénovation, mais on est bien là pour accompagner et accélérer les programmes, donc plutôt d'animation, qui se mettent en place dans les agglomérations, dans les métropoles. La métropole de Lyon a sa plateforme de la rénovation. Il y en a une à Vichy. Il n'y en a pas encore à Moulins, mais peut-être qu'il y en aura. Et on se pose la question, parce que moi j'ai rencontré dernièrement la préfète de l'Allier. L'idée, c'était de pourquoi pas envisager, enfin en tout cas de lancer une réflexion sur une plateforme à l'échelle d'un département de l'Allier, sur des hors agglomération, que sont Montluçon, Moulins et Vichy, mais bien sur toute la question du rural. Donc la question est ouverte, mais elle n'est absolument pas tranchée.
Alors, on va arriver vers la fin. On va dire trois questions. Allez.
Alors bonsoir, moi la question, c'est pas vraiment une question, c'est plus une information.
Oui, une question ou une expression.
Par rapport à ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire très récent, il y a un collectif d'avocats qui s'est mis en place actuellement,
oui,
qui a saisi donc le ministre de la Justice et de l'Environnement, pardon, et de la Santé. Et qui peut demain nous épauler sur un référé. Donc tous ceux qui peuvent être intéressés pour participer à ce collectif peuvent y adhérer, c'est une première chose. La deuxième chose que je voulais dire, c'est que j'ai vu passer dernièrement, et là peut-être que le député est au courant, monsieur le député, que monsieur Macron, au cours d'un colloque avec une commission sur l'intelligence artificielle, avait fixé dans les... le programme donc, des années à venir, qu'il fallait arriver à ouvrir les bases de données. Voilà, donc là, quand on sait que EDF c'est 100% l'État, qu'Inédit c'est 100% EDF, on se demande comment elles vont être protégées ces données.
J'ai pas d'informations sur la question très précise, mais nous sommes vraiment dans une société qui vise la connexion de partout. Hein. C'est clair. Ah. Madame.
J'ai une question toute simple. Je me demande, au-delà de tous les aspects qui ont été abordés par les uns et les autres, les principaux reproches exprimés par le rapport récent de la Cour des comptes au sujet des Linky, ça tient quelques dizaines de pages, mais moi j'ai retenu en particulier l'absence totale lors de l'installation d'explications aux personnes chez qui ce dispositif est monté. On voit bien que la participation des citoyens à l'économie, aux objectifs annoncés, ne correspond pas à une réalité vraiment, parce que là, vraiment, à juste titre, les passages du rapport en question sont très éclairants, méritent d'être lus. Alors, qu'est-ce que ça va devenir, ainsi que cette remarque sur les 500 millions d'euros estimés de bénéfices supplémentaires pour Enedis, jouant sur une différence de taux d'intérêt entre l'argent qui a été prêté à Enedis pour son opération Linky, sachant que cette opération est estimée entre 5 et 10 milliards en gros, selon qu'on compte ou non les concentrateurs, l'installation des Linky, enfin il y a plusieurs paramètres. Alors qu'est-ce que ça va devenir tout ça? Parce que la Cour des comptes n'émet pas des avis contraignants. Donc vous, en tant qu'élu, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce que vous souhaitez que ça devienne, ces remarques de la Cour des comptes, et en vue d'un rectificatif, comment vous envisagez ça, voilà.
Alors, depuis que je suis élu, j'ai au moins assisté à 7 ou 8 auditions de M. Migaud, le premier président, sur des sujets aussi divers les uns que les autres. Et en règle générale, il y a une information, il y a des prises de parole, des gens qui réagissent, des députés qui réagissent sur ces informations. Et jusqu'à maintenant, je n'ai pas d'autre retour que cela, si ce n'est que les recommandations de la Cour des comptes sont des recommandations qui sont normalement à prendre effectivement au sérieux. Et que lorsque la Cour des comptes revient sur un sujet où elle s'était déjà penchée et qu'elle retrouve les mêmes choses, elle est amenée à faire de nouvelles observations. Alors, sur cette question précise, moi je peux adresser à la Cour des comptes. Je peux adresser à la Cour des comptes un compte-rendu que nous allons réaliser en mentionnant votre question et en posant véritablement les bases de l'après-évaluation de la Cour des comptes. C'est-à-dire que eux-mêmes, qu'attendent-ils des remarques qui ont été faites? Que Enedis, comment Enedis prend en compte les remarques qui ont été faites? Comment le gouvernement, comment le ministère concerné, on parlait de Nicolas Hulot tout à l'heure, prend en compte ces observations? Ce qui fait une suite, parce que vous avez raison, hein, il y a souvent des remarques, et puis ensuite on passe à autre chose, et on oublie très rapidement les choses. Moi, l'intérêt de cette réunion, ça fera partie des éléments de ma conclusion, l'intérêt de cette réunion, c'est de la faire vivre aussi, hein, c'est de la faire vivre dans le temps, et que cette initiative citoyenne ne soit pas sans lendemain. Alors, je ne vais pas promettre que ça va tout révolutionner, mais l'expression citoyenne, il est important de permettre qu'elle se fasse, et ensuite il est important de pouvoir la relayer. Donc votre question sera relayée, comme nous allons tenter de faire une synthèse à relayer, y compris en termes de questions écrites, comme on l'a dit, tout à l'heure. Il y a déjà eu des questions écrites, hein, sur la question de Linky. Il y a déjà eu des questions écrites, enfin je pense, Agnès, hein, on avait regardé ça à un moment donné. Voilà moi ce que je... Ce que que je peux dire. Mais je peux dire aussi que la Cour des comptes salue d'une manière très forte les économies en termes de dépenses publiques, par exemple. Hein, c'est même un leitmotiv qui revient systématiquement.
Aujourd'hui. Il n'y a pas de contrainte, M. le député.
Non, mais pardon.
Il n'y a pas de contrainte après.
Non, mais quand je dis, quand je dis que la Cour des comptes met en avant la nécessité de baisser la dépense publique, je veux dire que la Cour des comptes est le relais aussi de ce que j'ai entendu tout à l'heure. Et il est vrai que moi, quand j'ai une réunion comme celle-ci, j'ai l'impression qu'il y a deux sociétés qui s'entrechoquent. Une société, finalement, de l'hyperconsommation, parce qu'on est dans le prolongement de la société de consommation. Hein. Et quelque part, quand on parle de produits qui seront proposés, eh bien derrière, il y a forcément du business à faire. Et puis une autre société qui cherche une autre voie. Et ces deux sociétés, pour l'instant, ne se trouve pas. Et finalement, le compteur Linky, mais comme d'autres expériences, le compteur Linky, dans cette affaire, devient un révélateur de la manière dont on peut appréhender la société à venir. La question qui était posée tout à l'heure sur, par rapport aux 10% finalement qui possèdent et qui commandent tout est une véritable question moi, que je me pose assez régulièrement entre nous. Qui va modifier le rapport des forces? Moi, je pense que le rapport des forces, il se modifiera, il peut se modifier un jour par la mobilisation et par l'établissement de nouveaux rapports de force. Sinon, voilà. Eh bien, écoutez, on va essayer de faire partie de ces élus, parce que je pense qu'il n'y en a pas, il n'y a pas l'élu providentiel, mais je pense qu'il y a des élus qui aujourd'hui travaillent sur ces questions d'une autre manière.
Oui, parce que le village où on a réussi à faire reculer les équipes, c'est les villages où vous s'appuyez sur tes élus.
Ben j'espère, oui. Alors,
je voudrais parler de la CNIL.
Alors, s'il vous plaît.
Moi, je voudrais vous remercier, Monsieur Dufresne, parce que vraiment, vous avez fait une réunion de qualité, je dirais, on peut s'exprimer. En ce qui concerne la CNIL, il faut savoir qu'elle vient d'épingler Direct Énergie, parce que justement, ils ont noyé un peu la question pour avoir l'autorisation des clients pour donner Bon, d'accord. Ensuite, au mois de mai 2018, va être mis en application le RGPD, c'est le Règlement Général de Protection des Données, et tout fichier doit, chaque personne peut demander quelles informations on a collectées sur soi-même, on peut demander l'effacement, et si ça n'est pas fait, porter plainte à la CNIL, et il y aura de grosses, grosses amendes. Enedis ne demande rien, n'informe pas. Et encore une fois, bon, pourquoi ? Je voudrais dire aussi, on n'a pas parlé de l'augmentation des factures. Il faut savoir que le compteur lui-même consommera 10 watts par jour. Ensuite, le compteur ne comptera plus en kilowattheure, mais en kilovolt-ampère, d'où 10% d'augmentation de la consommation. Je voudrais préciser que c'est Corinne Lepage qui a donc interpellé la ministre de la Santé Agnès Buzyn et Nicolas Hulot par rapport à déposer un moratoire par rapport au danger des ondes électromagnétiques. Et je suis là aujourd'hui, je suis avec Marie ici présente, je suis Chantal Attard, Marie Guyomard, nous venons de Montluçon, nous avons créé avec d'autres personnes un collectif Stop Linky 03. J'ai préparé quelques dossiers pour éventuellement vous informer de ce que l'on craint et j'ai quelques flyers à vous distribuer si vous voulez nous joindre. En tout cas, merci d'avoir fait cette réunion.
C'est la dernière, mais il en faut une.
Bonsoir. Voilà, moi j'ai une question qui concerne la santé. Je me demande s'il va y avoir des interférences pour les personnes qui portent des pacemakers, des puces électroniques, aussi bien au niveau des humains que les animaux domestiques. Y a des, je connais une personne diabétique qui se surveille avec qui surveille ses glycémies de façon continue, elle peut consulter sur son téléphone.
Ce problème a été posé à Enedis, et ils répondent d'une drôle de façon. C'est que vos appareils ne sont pas au point, il faut les mettre au point. C'est la réponse d'Enedis. C'est ce qu'a pensé purement simplement ce qu'il y en a.
C'est tout. Surtout qu'on est en plus qu'il y aura des soins
comme ça. Alors, juste pour préciser, en interrogeant Enedis sur la question, c'est un des motifs, d'ailleurs un des seuls, pour lesquels aujourd'hui ils n'installent pas le compteur chez les gens qui ont des pacemakers. Parce que ce monde Nous concluons. Alors c'est toujours frustrant hein, ce type de réunion parce que bon, on a de l'emballement, on est content pour tout le monde. Et puis, faut pas que ça s'arrête là, parce que sinon ça n'a pas de sens, sinon de se faire plaisir. Donc nous allons faire ce que nous avons dit en termes de relais. Et puis, moi je veux vous remercier, on disait tout à l'heure, sympa cette réunion. Bah, la réunion, c'est vous, ce qui est intéressant, c'est l'expression que vous avez eue les uns et les autres. Et donc je veux remercier parce que ce sont de simples citoyens, disent-ils, mais ce sont des citoyens engagés et qui...